We want to thank the Lord who has graciously kept us throughout the week.
Nous aimerons dire merci au Seigneur qui nous a gardés par sa grâce pendant toute la semaine. Quel privilège nous avons de se rassembler en tant qu'enfants de Dieu et d'être fortifiés par sa parole. Quel privilège que nous avons de donner nos vies et d'être fidèles et d'être en vérité les enfants et les serviteurs et les disciples de Dieu. Nous vous invitons tous, frères et sœurs, à vous joindre à nous, à ce culte, afin que le Seigneur nous remplisse, qu'il nous change nos vies pour ce qu'il a en réserve pour nous. Nous allons prier. Notre Père céleste, nous te remercions de ce que nous pouvons venir ce matin avec un cœur plein de gratitude. Nous n'avons rien, Seigneur, à apporter. Nous pouvons seulement reconnaître ta grandeur, et nous ne sommes vraiment rien dans ce monde, mais c'est toi qui nous façonne et tu nous rends capables de vivre dans ce monde que toi-même tu as créé. Merci, Père Céleste, d'avoir envoyé ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, comme un sacrifice afin que nous ayons la vie. Et pour sa mort à la croix, pour nos péchés, notre dégradation, et que au troisième jour, il est ressuscité avec plein de gloire. Et aujourd'hui, nous avons ton évangile que nous pouvons utiliser, Seigneur. Maintenant, nous te prions pour ta bénédiction pendant ce moment. Bénis-nous ta parole. Parle-nous comme toi-même tu peux le faire, afin que nos paroles soient, nos cœurs soient transformés par ta puissance. C'est par ta grâce et ta miséricorde que nous te le demandons, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons commencer avec notre premier passage dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. « qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. L'intention de Paul ici, c'est de nous rappeler ce qui s'est passé il y a très longtemps en arrière. Et il dit ce qui s'est passé en ce temps-là, plusieurs années en arrière, peut encore arriver pendant notre temps. Tous ont été sauvés par l'action de Dieu, par son œuvre miraculeuse. Ils ont été tous sauvés d'Égypte, de la terre de servitude, d'esclavage. Tous ont expérimenté la puissance de Dieu qui les enveloppait. Et tous suivaient Moïse qui avait été choisi par Dieu pour les conduire à la terre promise. Ils avaient tous expérimenté ce grand miracle de la séparation de la mer Rouge. Et ils ont aussi expérimenté leur salut et la délivrance de leur esclavage et de leurs ennemis. Par ce qui les opprimait. Tous avaient mangé la même nourriture spirituelle. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Et tous buvaient, Christ, ils buvaient. Est-ce qu'on peut vraiment l'imaginer? Ils pouvaient boire de lui et pouvaient recevoir la vie que Christ offrait ou offre. Mais au 5e verset, il est dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. « Nous avons ici l'intention de Dieu. Nous avons ici aussi la vision de Dieu, l'amour de Dieu. Qui est révélé afin que la créature de Dieu, la création de Dieu et le peuple de Dieu lui soient agréables. Le but de Dieu est son plan quand il plaça l'homme au jardin d'Éden. Il a regardé à tout cela et tout était bon, bon aux yeux de Dieu. Et Dieu s'est donné lui-même en envoyant son propre fils. Qu'est-ce qu'il pouvait encore faire pour toi et pour moi? Tout ce qu'il pouvait faire, il a accompli tout cela. Alors, mes frères chrétiens, peu importe là où tu es, où vous êtes, sachez ceci. Que vous n'êtes pas chrétien pour votre propre plaisir, mais c'est pour être agréable à Dieu. Si il te dit, si on t'enseigne de te séparer de tes péchés, donc, tout d'abord, le plus important, c'est que, afin que tu vives, tu mènes une vie qui soit agréable à Dieu. Si tu le fais simplement comme nous l'avons appris ces jours, certaines personnes le font pour plaire à l'homme. Certains veulent simplement obéir à leurs parents, juste simplement pour plaire aux parents, et ils le font parce qu'ils sont devant leurs parents. Mais est-ce que vous êtes allé au-delà de cela? Est-ce que vous avez trouvé le secret de Christ dans cette affaire? Et si vous le faites simplement pour vos parents, vous êtes déjà un échec. Et déjà peut-être ta propre vie le témoigne déjà que tu es un échec. Tu ne l'as pas fait pour le Seigneur. Tu ne l'as pas fait en reconnaissant et dans la soumission et avec amour pour ton Créateur. Et cette parole est écrite sur ta vie, et ça concerne ta vie où il est écrit, mais il n'est pas agréable à Dieu. Sache ceci, que le jugement est déjà porté sur ta vie. Et c'est l'intention de Dieu, l'intention de Christ de t'offrir ce salut afin que tu puisses éviter le jugement. Tu peux faire entendre ta voix par tout le monde entier, Mais malheur, malheur à toi si c'est seulement les gens qui écoutent ta voix, mais alors que Dieu n'est pas, ne prend pas plaisir à ta voix, la voix que tu es en train de faire entendre. Et voilà le défi que je lance à toi, frère, toi, chrétien, toi qui suis la foi. Est-ce que Dieu prend plaisir à ta vie ou est-ce que Dieu ne prend pas plaisir à cette vie-là? Tu peux te... Tu peux parler de ton baptême, tu peux parler de toutes tes merveilles sous les cieux. Et même encore les miracles que tu as expérimentés. On peut encore aller loin en disant même que tu peux te vanter du roc par lequel tu buvais, qui est Christ. Mais si Dieu ne prend pas plaisir avec toi, alors quelle est ton espérance? Où est ton espérance? Et Dieu s'assurera que ta vie soit perdue dans le désert. Comme nous avons appris dimanche dernier, que celui qui invoque le nom de l'Éternel se détourne de l'iniquité. On peut être ce qui plaise aux hommes. Mais nous ne devons pas nous réclamer comme étant des serviteurs du Tout-Puissant Dieu. On peut se plaire à soi-même. Que plaît en tant que ta vie, en tant que chrétien que tu es, quelle personne cherches-tu à plaire? Ou quelle chose cherches-tu à plaire? Il y a beaucoup de choses que l'être humain qui n'est rien peut avoir en lui. Ça peut être d'abord par exemple l'orgueil. Et à cause de l'orgueil, ta propre vie est gonflée par ta propre image. Et tu te vois vraiment grand selon ton opinion. Jésus, au début de son ministère, il a dit au début que heureux les doux. Dans tous tes efforts, ô fils, ô fille, est-ce que tu te retrouves dans la douceur de Christ? et cet ego, cette vie de soi ne meurt pas à cause de la jeunesse, ne meurt pas dans la vieillesse et ça peut te conduire jusqu'à ta tombe. Est-ce que Dieu prend plaisir avec toi? Je vais un peu dévier et regarder un peu à un aspect que j'ai reçu ce matin. Et cela est la conscience de l'homme. Vous savez, quand nous étions petits, nous avait montré une illustration comment apporter de la rédemption et Jésus a dit que à moins que tu sois humble comme cet enfant, tu n'auras pas de part au royaume des cieux. On nous montrait des images et l'illustration du cœur de l'homme. Et à l'intérieur du cœur de l'homme, il y avait un endroit qui ressemblait à la conscience de l'homme. Et à cause de permettre des choses ou des animaux qui sont symboliques au péché, et la conscience devenait pâle, devenait sombre, et elle n'était plus claire. Et Paul, qui a écrit cette lettre aux Corinthiens, il écrit à Timothée, 1 Timothée 1, au verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Et Paul écrit aussi aux Corinthiens, il dit que certains ont rejeté cela et ils ont fait naufrage dans leur foi. Est-ce que je peux le dire que je n'ai pas encore abandonné ma foi et je me tiens dans ma foi? Mais ta foi, aux yeux de Dieu, a souffert, a fait naufrage. Et Paul, qui était conduit par l'Esprit, le Saint-Esprit, a pu écrire ces paroles. Et la parole de Dieu peut alors nous donner un jugement à travers Paul que certains ont fait naufrage dans leur foi. Oui, on peut dire ton bateau est encore là, personne n'est mort encore. Mais ce bateau est dans les rochers, il est endommagé, alors qu'il doit être sur les eaux, sur l'océan. Mais alors que le bateau, il est là sur les rochers, il a fait naufrage. Est-ce que Dieu prend plaisir à toi quand ton bateau est sur les rochers alors qu'il y a des trous et c'est endommagé? Peut-être parce que tu n'étais pas vigilant à ta conscience qui était en train de t'avertir qui était en train de te signaler la lumière rouge pour que tu fasses attention, que tu vas terminer au rocher et tu n'as pas veillé et tu es fini, tu as terminé là sur ces rochers. Et on se rappelle pendant l'époque de CFT qu'on nous avait montré une image de la lumière sur la rive qui nous avertissait de la rive. Mais est-ce que tu as vu cela, ce signe-là qui t'avertit? De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Oh Paul, c'est un homme que je peux comparer à Moïse. Paul pouvait. Moïse pouvait dire des paroles qui étaient inspirées par Dieu et qui se sont accomplies. Et aussi ici, Paul dit que, il dit au verset 26, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et on peut continuer dans 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un corps pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et encore dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Par exemple, quand on pense ou on considère les règles de la bataille ou de la guerre, si quelqu'un a perdu sa position dans le groupe, est-ce que cette personne, on peut compter sur elle? C'est la grâce de Dieu, bien que tu ne plais plus à Dieu, mais tu es encore vivant physiquement. C'est vraiment sa grâce qui te garde, bien que tu es en train d'errer dans le désert. Tu n'es pas sorti d'Égypte pour venir errer dans le désert. Tu es sorti de là pour aller à la terre promise. Et si tu as pris plaisir à toutes les bénédictions du christianisme et de la bonne nouvelle, alors tu as une dette, et cette dette, c'est de plaire à Dieu. Je le dis, tu n'es pas endetté pour plaire à toi-même. Si tu as reçu, le baptême, si tu as été sous la nuée de Dieu, si tu as mangé la nourriture spirituelle et que tu as bu de Christ, et toutes ces bénédictions que tu as reçues à cause de Dieu qui a envoyé Moïse, son serviteur. Toi qui étais lié dans ton péché, dans l'esclavage, et à cause de la grâce de Dieu qui a envoyé Moïse pour te sortir de la terre de servitude. Thank you. et tu as une grande dette à payer au gardien de ton âme. Et comment peux-tu te perdre dans le désert alors que tu es sur le chemin pour la terre promise? Pourquoi suis-tu la dégradation de ton propre corps? Pourquoi es-tu perdu dans ce monde pourri où chacun cherche son crédit ou sa reconnaissance? Pourquoi es-tu perdu dans l'image de soi? Pourquoi demeures-tu dans la vie de mon endroit, ma maison, ma chose? Pourquoi tu te livres toi-même à faire ce qui te plaît? Tu es endetté à Christ qui t'a racheté avec son sang précieux. Tu es libre d'errer. Peut-être tu as été déjà. Tu es séparé peut-être du groupe déjà. Toi, tu peux courir. Tu peux parler ce que tu veux. Et Paul a dit que je te livre à Satan afin que tu apprennes à ne pas blasphémer. Est-ce que je peux parler d'un homme? Il était Samuel Rutherford, il était d'Écosse. Il avait vraiment un cœur de pasteur et il ne s'arrêtait pas pour vraiment aider les gens de son église. Et il priait tout, et cet homme priait toujours. Et il était toujours en train d'aider et visiter les malades. Et sa femme était malade pendant un an et demi avant qu'elle ne meure. Et deux enfants sont aussi décédés pendant cette période. Et néanmoins, Dieu a utilisé ces temps de difficultés, de douleurs dans la vie de cet homme-là pour qu'il devienne quelqu'un qui peut réconforter les autres. Et en 1636, Rutherford, il a écrit un livre qui disait « Défendre défendre la doctrine de la grâce. Et cela l'amena à être à une position où il était en conflit avec les autorités de l'Église. Il est allé jusqu'au tribunal. Et il a été ôté de sa position et il a été envoyé en exil. Et Samuel Rutherford était en prison à Aberdeen. Et quand il écrivait, dans ses lettres, on pouvait lire que pendant qu'il était en prison, il considérait ça comme étant le palais de Dieu. Quand Madame Guyon a été en prison, emprisonnée, dans un château de Vincennes, elle a dit, je me suis senti comme un petit oiseau que Dieu a mis dans la cage et que je n'avais vraiment plus rien à faire que de chanter. Et ça me rappelle Paul et Silas quand ils ont été mis en prison avec une grande sécurité. Mais pendant la nuit, le geôlier les avait entendu leur chant alors qu'ils avaient été flagellés, battus, liés et avec des blessures. Ils étaient liés avec des chaînes, mais ils chantaient à leur rédempteur. Et des paroles qui atteignaient jusqu'à leur rédempteur. Et l'auteur a écrit que tous les prisonniers doivent le voir que Jésus est avec moi ici en prison. Et quand John Bunyan était en prison, il a dit que je n'ai jamais pu être conduit ou avoir la possibilité de passer du temps avec la parole de Dieu comme maintenant. Et ces passages de la Bible qui ne signifiaient rien pour moi ici, ça m'éclaire pendant que je suis ici dans cette prison. Et Jésus n'avait jamais été aussi réel pour moi comme il est maintenant. Et ici, je l'ai vu et je l'ai ressenti en vérité. l'auteur a dit, il dit, j'ai vu des grandes choses. Il dit la chose la plus grande, c'est que un homme puisse recevoir du trône de Dieu, c'est de donner toute sa vie pour ce monde perdu, ce monde perdu, pour enfin terminer dans la présence de Dieu. Donc cette personne-là n'oublie jamais le service à donner pour ce monde perdu. Jésus est venu, il a quitté, il a abandonné sa demeure pleine de gloire et il est venu ici, devenu un homme comme toi et moi. Il avait notre chair. Et il s'est renié lui-même. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et quand même les pauvres pouvaient glorifier le nom de Dieu, et même si les chefs religieux pouvaient cracher sur le visage du Seigneur, mais son cœur était brisé pour ce monde perdu. Revenons à Moïse. Est-ce que tout ce que Moïse a fait, c'était pour son orgueil? Pour lui-même. Nous l'avons appris avant déjà que pendant 40 ans, il était abandonné dans le désert pour prendre soin du troupeau de son beau-père. Mais au temps marqué de Dieu, Moïse a rencontré Dieu qui s'est révélé à lui dans un buisson ardent. Il a entendu des paroles qu'il n'avait jamais entendues avant. Est-ce que tu as déjà entendu des mêmes paroles? Moïse, ôte tes sandales. Ôte ce sur quoi tu te tiens. Ôte ce qui est ta vie, ce que tu considères comme fondement ou assurance. Car tu te tiens sur un sol saint. Parce que je suis ici, c'est moi la voix qui sort de ces flammes et l'endroit où tu te tiens est saint. Et c'est à toi que je parle. Moïse s'est défendu lui-même. Il a dit, je ne peux pas. Je ne peux même pas parler. Je ne suis que berger. J'ai perdu toute mon éloquence du palais. Et Dieu l'a vaincu. Il a lutté aussi comme Jacob. Et Dieu l'a vaincu. Et il s'est incliné. Et il a dit, oui, d'accord, j'irai. C'est pourquoi tu cherches, tu suis ton honneur et tu veux plaire aux hommes et tu n'es jamais venu à l'endroit où Dieu se trouve. À cet endroit où Dieu peut te vaincre, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé à cet endroit. Et les gens, avec leurs propres pensées, ils disent que Moïse était un lutteur pour la liberté. Moïse n'était pas une personne insignifiante comme on peut le considérer. Il pouvait se tenir devant le roi sans armes. Et dire au roi, Dieu a dit, l'Éternel a dit, laisse mon peuple partir. Le roi pouvait l'exécuter. Le roi pouvait décider qu'il soit mis en prison. Qui es-tu? Qui est ton Dieu? Je ne connais pas qui est ton Dieu. Et ce que Dieu veut, et ce que Dieu veut accomplir, l'homme peut chercher à s'opposer à cela, mais si Dieu ne prend pas plaisir à ta vie, si peu importe les diplômes que tu peux avoir un doctorat, une licence, mais Dieu t'assure que tout ce que l'homme sème, il va le récolter. C'est C'est Dieu qui a appelé Moïse à se tenir devant Pharaon. Il a appelé Moïse. Et Moïse s'est présenté devant Pharaon à plusieurs reprises jusqu'à ce que Pharaon décide que voilà, prenez tout ce qui est à vous et partez. Et ils ont traversé la mer Rouge, alors c'était comme un mur de tous les côtés. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils étaient en présence de Dieu, ils ont bu du rocher qui était Christ et ils ont mangé la manne spirituelle. Moïse ne cherchait pas à se plaire lui-même, il ne plaisait pas lui-même. Combien de fois il criait, il courait toujours vers Dieu en disant « Seigneur, voilà, ils veulent me lapider. Seigneur, que dois-je faire, s'il te plaît ?» Et il intercédait toujours pour ces rebelles. Ces rebelles, ces rebelles qui étaient des anciens prisonniers. Moïse a pu se tenir grâce à la force que Dieu lui donnait. Il pouvait dire que des paroles que le Tout-Puissant Dieu pouvait lui murmurer dans son oreille. Et nous avons devant nous, celui qui est plus grand que Moïse. Celui qui veut que sa création et que ceux qui invoquent son nom se détournent ou s'éloignent de l'iniquité. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu as été racheté par un grand prix, et c'est par un grand prix, par le sang de Christ. Donne-lui honneur par tes paroles. Donne-lui honneur par tes yeux. Et donne-lui honneur par tes oreilles. Et honore-le aussi avec tes pieds. Plais au Seigneur avec ta vie.
Friends, allow me just to say one or two things about what Paul said.
Permettez-moi, mes amis, de dire une ou deux choses par rapport à ce que Paul a dit. Et Paul continue à parler de ces deux hommes qu'il a livrés à Satan. Et dans le chapitre qui suit, il leur dit ceci dans Timothée.
Il dit que leurs paroles vont se répandre comme une gangrène. Et parmi eux, il y a Hyménée et Alexandre. Bien qu'ils ont été livrés à Satan, ça ne veut pas dire qu'ils ont cessé de parler. Ne soyez pas, ne vous trompez pas par cela. Paul dit que leurs paroles vont continuer à se répandre comme un cancer, comme une gangrène. Ça va confondre les gens. Ça va les amener à être dans la confusion de leur salut. Et ça va les amener à être dans la confusion de Dieu et combien Dieu est fidèle. Et même les amener à être dans la confusion des enfants de Dieu et de l'Église de Dieu. Mais voici ce que Paul a dit. Il dit que leurs paroles vont se répandre comme une gangrène. Ne soyez pas surpris quand ils parleront ainsi. Et quelle différence, quel discernement as-tu entre les paroles de ces hommes-là et la parole de l'évangile de Dieu? C'est qu'on le verra par leurs fruits. Le Seigneur Jésus nous a donné la réponse. Le Seigneur Jésus a dit que vous reconnaîtrez l'arbre par son fruit. On ne cueille pas la pomme sur un oranger. Ou cueillir de la tomate sur un pied de citrouille. Leurs fruits vont le démontrer. Il y avait une occasion. Il y avait une occasion quand les Juifs ont pris des pierres pour lapider Jésus-Christ. Et cela est très important. Les Juifs ont pris les pierres pour le lapider dans Jean chapitre 10 au verset 31. Jésus-Christ les a répondu. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Oui, tu as fait des bonnes œuvres, mais nous avons ceci, ceci, cela à contre toi. » Est-ce que je peux vous demander, chers frères, chers amis, qu'est-ce que tu as été occupé avec? Est-ce que tu as été là en train de réunir, rassembler des pierres pour jeter? Est-ce que c'est ça ta gloire? Est-ce que c'est ça ton orgueil? Pour que tu trouves la plus grosse pierre à lancer sur la prochaine personne. Est-ce que c'est ton orgueil pour porter la gloire? Combien d'enfants vivent dans l'immoralité, les jeunes qui vivent dans l'immoralité que tu as portés à Christ, pourquoi ils sont sauvés de leur vie d'immoralité qu'ils voient Christ? Depuis 1974, des milliers et des milliers depuis 1974, beaucoup de personnes ont reçu ce salut-ci. Combien de meurtriers as-tu apporté au Seigneur et qui aujourd'hui leur vie peut-être a été changée à 180 degrés et que leur vie a été complètement changée en Christ? Combien de personnes as-tu amené à Christ? Dis-moi, combien as-tu... Combien de voleurs ta vie a été une conviction pour les autres? Combien de vies ta vie a-t-il été une bénédiction pour qu'ils soient convaincus de leur vie, afin que quand ils te voient, ils peuvent dire que s'il te plaît, prie pour moi pour que Dieu m'aide. Dis-moi, combien? Dis-moi combien de mariages ont été sur... On finit sur un roc et que ta vie, que tu as pu assister afin que Christ les aide. Combien de vies? Une, deux, cinq, peut-être dix, peut-être vingt, combien? Est-ce qu'on peut les compter dans des centaines ou des milliers? Tu reconnaîtras le fruit par l'arbre par le fruit. Sinon, tu vas terminer par le mensonge de ces hommes-là qui est en train d'être répandu comme une gangrène. Combien de personnes qui ont été des instruments dans la main de Satan, ils étaient dans la sorcellerie. Combien de personnes as-tu gagné en Christ parmi eux? Combien de personnes... Combien de personnes sont livrées dans des mauvaises choses, dans des crimes? Combien de personnes parmi eux tu as aidées pour venir à Christ, pour qu'ils soient sauvés? Peut-être tu ne connais pas ce qu'on appelle le tagataga. Peut-être tu vis dans... Tu vis parmi une nation avec des personnes que tu vis côte à côte, tu ne les connais pas. Un autre fruit, c'est que combien d'union ou l'unité que tu as pu apporter parmi les races dans l'Évangile, où on peut voir que le blanc et le noir sont unis, sont assemblés, sont attachés, liés dans l'Évangile de Christ. Pas seulement faire un cinéma ou un cinéma pour faire, par exemple, juste s'embrasser juste en public, juste pour faire du cinéma, un show. Mais alors que dans le fond, ce n'est pas la vérité. Mais vivre avec eux comme un cher frère chaque jour dans l'Évangile. Mais est-ce que ton orgueil est basé sur la pierre que tu peux lancer? Est-ce que c'est ça ton orgueil? Est-ce que c'est ça ta fierté? que j'irai au ciel un jour parce que j'ai jeté la plus grosse pierre. Et toi qui sens qu'une pierre t'a été jetée qui porte du bon fruit, n'es-tu pas découragé à cause de la pierre qui t'a été jetée? Chers frères et sœurs, jamais ne te décourage pas, c'est ce que le diable veut. Il veut que tu sois occupé avec cette pierre. Le Seigneur Jésus s'est détourné de ces hommes-là et il a continué avec son ministère. Est-ce que tu es encore occupé à porter du fruit? Oui, je sais que nous avons eu la COVID-19. Mais dans cette période-là, est-ce que tu as eu la passion, le zèle pour amener les gens à Christ, au salut? Si tu vois un arbre qui porte du bon fruit, pas seulement du fruit spirituel, pas seulement amener les gens à Christ, mais aussi enseigner les gens à travailler. Paul a dit que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas aussi. Mais dans le contexte de répandre l'évangile, il faut aussi les apprendre, les enseigner à gagner leur propre vie. Ici, nous sommes dans cet auditorium qui a été construit. Est-ce que ça a été construit en faisant des collectes d'argent chaque dimanche? Est-ce que ça a été construit avec des demandes depuis le pupitre que nous avons besoin d'argent pour faire ceci ou faire cela? Non, ça a été construit par la vision de l'homme qui a commencé cette œuvre. Il a dit, nous devons essayer de générer autant d'argent que c'est possible pour qu'on n'aille pas demander l'argent aux gens. À quoi elle a commencé? Par la vision d'une jeune fille qui a dit qu'il y a un trésor dans la terre, dans le sol. Comment le travail d'Aquila a commencé? C'était avec un travail spécial des enfants de Dieu, des différentes races qui se sont unis et ils ont dit, ils étaient un dans l'évangile, ils ont commencé cette œuvre. Est-ce que tu vas permettre la gangrène, le cancer de ces hommes-là de te gagner et que tu perdes ta fidélité et que tu perdes l'évangile de Christ? Et même le bien que la mission fait aujourd'hui, cela est considéré comme étant le mal. Qu'est-ce que Paul dit après? Il dit dans 1 Timothée 2 au verset 17. Non. Pardon, c'est dans 2 Timothée 2 au verset 17. et leur parole rongera comme la gangrène de ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Voici ce que nous avons entendu ce matin. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Car pour toi, cher frère, personnellement, et pour moi, fais en sorte que ça soit ton but dans la vie. Pour être sûr que le Seigneur te connaît, être sûr que tu lui appartiens. Et si le péché vient dans ta vie, qui peut te séparer de lui pour t'éloigner de lui? Alors, traite avec ce péché et ne le cache pas. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Peut-être tu n'es pas au courant de toutes ces choses que j'ai dites, mais ceci est pour toi. Sois sûr que le Seigneur, il te connaît et qu'il connaît tout à ton sujet. Même ce cœur trompeur en toi, ce Judas que tu portes avec toi. Qui va te tromper et qui pourra te convaincre que tu es avec Dieu alors que tu es en train de te servir toi-même? Viens à Dieu avec ce cœur méchant, ce cœur plein de ruses. Et avec ces mauvais motifs qui te poussent à dire des choses comme tu le dis. Apporte-le ce cœur pour que rien ne te sépare de Dieu. Et Paul dit ensuite, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Sois occupé avec cela. Détourne ou éloigne-toi de l'iniquité. Et chaque petit péché qu'on peut permettre dans notre vie, que toi et moi traitons contre cela, traitons cela. Et confessons-le, parce que la parole de Dieu dit qu'il est juste, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et repens-toi. Je vais terminer avec cette remarque. Quand je suis venu à la mission, j'étais très convaincu de mes péchés. J'étais encore un étudiant en médecine. Vous savez, avec toutes les souillures qu'on peut rencontrer à l'université, je suis venu ici et j'ai exposé mon cœur. Et l'ancien trompeur, l'ancien accusateur de notre âme m'a parlé, Satan. Et rappelez-vous que c'est ça son nom, il est l'accusateur. Il se tient jour et nuit pour nous accuser devant le trône de Dieu. Mais nous avons un avocat qui nous défend. Il est en haut au ciel. Et l'ancien, le vieux accusateur m'a dit, mais pourquoi tu ne pleures? Il dit, pourquoi ne pleures-tu pas sur tes péchés? Tu n'es pas sérieux vraiment, tu n'es pas dans une vraie conversion, tu n'as pas vraiment de remords sur tes péchés. Et je suis allé chez un homme de Dieu parce que le diable m'avait saisi et je ne pouvais pas m'en sortir. Et le diable m'a dit que voilà, tout le monde ici est en train de pleurer sur ses péchés. Toi, tu es là avec des yeux secs. Et j'ai demandé à un conseiller ici à la mission. J'ai dit, cela me dérange, ça me trouble. Que je n'ai pas une vraie conversion. Et il m'a dit, tu sais ce que c'est d'avoir des vrais remords de tes péchés? Que tu pleures ou que tu ne pleures pas? Parce que nous tous, nous ne pleurons pas facilement. Mais que tu as la bonne volonté de confesser ton péché. Et deuxième point, c'est que tu es prêt à te repentir de ce péché et de l'abandonner. Ça, c'est le signe de la vraie repentance. Que tu es prêt à confesser et prêt à te repentir de ce péché. Oh, que le Seigneur puisse nous aider. Dieu, qu'il ait pitié de nous. Qu'on se rappelle de ceci, que le solide fondement posé par Dieu subsiste. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Peu importe combien vous êtes connus, peu importe comment les gens pourront t'appeler traître si tu tournes vers le Seigneur, ou combien les gens peuvent vous maudire, si tu sais que tu ne t'es pas encore détourné de l'iniquité, arrête de jeter les pierres et commence à vivre la vie que Paul suggère ici. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour cet évangile. Merci pour cet exemple de Paul. Merci pour cet avertissement de l'Ancien Testament. On peut faire partie des gens qui boivent du rocher, qui sont sous la nuée, mais toujours on n'arrive pas au ciel. Seigneur, s'il y a quelqu'un comme ça, Seigneur, parle à travers ton Saint-Esprit et convainc cette personne. Parce que c'est ça l'œuvre de ton esprit. Pour convaincre les gens du péché, de la justice et du jugement. S'il te plaît, parle-nous par ton esprit. Et nous n'avons pas de droit à te demander toutes ces choses. Excepté que nous te les demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.